Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
La série. Donc ici, à Home, on fonctionne en série. Et du coup, c'est plusieurs messages différents qui tournent autour du même thème, en l'occurrence le même livre qui est le livre des Actes. Et pour cette série, pour la première fois, on différencie les messages du matin et du soir. Du coup, si vous êtes venu ce matin, il y avait un message différent, une personne différente, en l'occurrence c'était Yves, qui parlait toujours du livre des Actes, mais d'une autre partie avec une autre approche. Et du coup, le nom qu'on donne à cette série, c'est « Ceux qui ont bouleversé le monde ». La dernière fois, le soir, si vous êtes des réguliers du soir, Raph a parlé du boiteux guéri. Et comment il s'agit dans l'histoire de Pierre et Jean qui voient une personne qui est considérée comme un déchet et juste cette idée de regarder, d'attirer, de donner de la place dans notre marche à une personne mise de côté, comme quoi c'est le début de la compassion. C'est le début de rejoindre les autres dans leur souffrance pour arriver à un miracle. C'était excellent, je vous conseille vraiment d'aller écouter ce message. Et du coup, ce soir, je vais vous parler d'autre chose qui se trouve aussi dans le livre des Actes, même un peu avant. Et le titre que j'ai donné à ce message, ça s'appelle « Composer un monde en commun ». En fait, au tout début du livre des Actes, il y a Jésus, fils de Dieu, qui est ressuscité, qui part au ciel. Et il laisse ses disciples un peu comme ça, genre, il monte au ciel, puis ses disciples, ils sont autour, puis ils sont là, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et il leur dit, au cas où, je vais vous laisser une présence qui s'appellera le Saint-Esprit, et c'est une manière d'être toujours avec vous, même si physiquement le corps de Jésus est monté. Et du coup, les apôtres, ils se retrouvent, ils sont un peu saoulés de se retrouver sans nouvelles de Jésus, pour la faire courte, et puis au bout de 10 jours, il y a le Saint-Esprit qui descend sur eux sous une forme de flamme. Chacun reçoit une flamme. Ils commencent à parler en langue, et c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Et ils commencent à parler aux autres, l'histoire dit qu'ils sont dans une maison, qu'ils sont tous rassemblés ensemble, et que d'un coup, dès qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sortent et ils commencent à parler de Dieu. Et Pierre, qui est un peu le gars d'éther dans l'équipe, tu vois, il commence à parler à tout le monde, à une grande foule, et en un jour, 3000 personnes se convertissent. Truc de ouf. Donc, pour le contexte, là, je vous ai résumé très rapidement les Actes 1 et Actes 2. Et du coup, le passage dont je vous parle ce soir, il se trouve à ce moment-là. Pierre vient de finir son discours, 3000 personnes se convertissent. Et dans Actes 2, au verset 42 à 47, qui vont s'afficher en dessus, c'est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Trop beau. C'est un passage très connu dans le livre des Actes, si ce n'est le plus connu, où on pourrait appeler, c'est le début de l'Église. Les gens se rencontrent et l'Esprit les rassemble et vivent la vie en communauté. Et il y aurait vraiment énormément de choses à dire dans ce passage. Tellement de choses incroyables, il y a des miracles qui se passent, il y a des gens qui se convertissent, il y a l'Église qui grandit, partage. Et ce soir, je vais vous parler de 3 points en particulier qui me paraissent cruciaux pour comprendre qui fonctionnent entre eux et puis qui est une invitation aussi pour nous à les suivre. Donc le premier, dans l'ordre, c'est la crainte. C'est écrit « La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » La crainte, tu sais, c'est un terme qui fait peur aujourd'hui un petit peu. On se dit, attends, la crainte de quoi? De Dieu, vraiment? Genre, il faut avoir peur de Dieu? On est souvent, quand on entend ce terme, on n'est pas à l'aise. Et en plus, c'est comme si on était dans une société où la crainte ou la peur, l'anxiété, peu importe le terme qu'on utilise, est très présent. Et franchement, il y a plein de manières totalement légitimes d'être anxieux. Que ce soit par rapport aux questions environnementales, climatiques, que ce soit par rapport à l'économie, que ce soit par rapport à la guerre. Il y a plein de raisons où, humainement parlant, avec notre regard, on peut avoir peur. Et quand il s'agit d'une personne, on associe souvent la crainte à « j'espère qu'elle ne va pas me choper en train de faire un mauvais truc ». Tu vois. Et des fois, c'est un petit peu l'image qu'on a. C'est un petit peu la crainte qu'on a de Dieu. « Ok, si je me fais choper par Dieu ou s'il n'aime pas ce que je fais, alors il va me punir. » Un contre-exemple pour ça, que j'ai eu dans ma propre vie, j'ai fait l'armée, et si vous me connaissez un peu, des fois les gens sont surpris que j'ai fait l'armée, moi aussi. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais du coup je me suis retrouvé là-bas, et à savoir qu'à ce moment-là, j'avais un groupe de musique et j'aimais trop faire la batterie. J'aime toujours d'ailleurs, j'en faisais vraiment beaucoup à ce moment-là et j'ai fait en service long. Du coup, ça veut dire que pendant très longtemps, je ne pouvais pas pratiquer la batterie. Et une semaine avant que j'aie fini, après avoir fini mon service long, avec des potes, on avait joué à un méga truc qui s'appelait la RJ. Et du coup, il fallait qu'on soit super chaud pour jouer devant 3000 personnes. Et moi, je ne pouvais pas jouer de la batterie, j'étais à l'armée. Très frustrant. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais m'agouiller. J'ai demandé à ma mère de m'amener jusqu'à Thun avec une batterie électronique que j'avais empruntée à un pote. Vu que j'étais un petit peu gradé, j'ai demandé à une recrue de m'amener la batterie pendant la nuit dans ma chambre pour que je puisse jouer. Et je savais que c'était un peu tricky, tu vois. C'était pas la chose qu'on encourage à faire quand t'es soldat, encore moins quand t'es un peu gradé. Et du coup, au bout de quelques temps, il y a un supérieur qui voit ça, et puis du coup, il fait « Non, Weber, il faut que vous repreniez ça chez vous, ça va pas. » Et du coup, je dis « Mais non, en fait, je dois pratiquer et tout. » Et du coup, je l'ai déplacé dans une autre chambre. Comme tout bon Suisse qui obéit aux règles. et du coup, là, je me suis dit « Ok, je vais continuer à jouer et tout. » Et vraiment, au bout de deux semaines de nouveau, l'adjudant d'état-major, ouais, Weber, a commencé un peu à nous taper sur les nerfs. Est-ce que vous pourriez juste reprendre votre batterie? Vous avez 3 jours. Ok. Moi, je voulais vraiment continuer à jouer, tu vois. Et du coup, je l'ai mise dans mon bureau. Et vraiment, j'étais là. Franchement, j'avais les boules, tu vois. J'étais là, j'ai trop envie de jouer, c'est pour Dieu. On va faire de la louange. Mais en même temps, je n'étais pas en paix et j'avais peur de me faire choper. Et là, je me suis fait choper une troisième fois. Et au début, ils ne m'ont rien dit. Puis une fois, un vendredi soir, toute la compagnie, 150 personnes, colonel d'état-major, donc le plus haut, le commandant d'école, il fait « Weber, venez vers moi ». Je parle suisse-allemand, mais pendant les 5 minutes qui ont suivi, je n'ai rien compris. J'ai juste su qu'il n'était pas content. Vraiment pas du tout, et j'avais les boules comme ça. Bon, ça c'est un petit peu la peur, c'est un petit peu la crainte, tu vois. Là c'est un peu marrant, mais bon, pour finir l'histoire, il y a un autre adjudant qui est venu vers moi et m'a dit hey, « Lui là, je le connais, je l'ai jamais vraiment apprécié, tu sais quoi, fous ta batterie dans un petit fourgon blindé, ça reste entre nous. » Du coup j'ai pu jouer jusqu'à la fin de mon armée. La persévérance pour la bêtise. Mais ça, c'est une autre histoire. OK. En fait, c'est juste pour illustrer un petit peu la crainte. Des fois, on sait que ce n'est pas totalement OK, mais on se trouve quand même des excuses. On a envie d'avoir un peu notre propre confort. Et la crainte pour Dieu, elle est différente que la crainte, comme moi j'avais eu dans cet exemple avec le colonel d'état-major. Mais il y a quand même une notion d'autorité. En fait, dans toute la Bible, il y a une notion de crainte auprès de Dieu. Il y a un respect profond pour Dieu. Et Dieu est souvent utilisé, des fois dans les psaumes, dans le Nouveau Testament, est représenté comme un feu. Même Moïse, quand il est dans le désert avec tout son peuple, c'est une colonne de feu qui les guide. Et en fait, dans Hébreux 12, versets 28 à 29, il écrit « Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. » Car notre Dieu est un feu qui consume. Un feu qui consume. C'est à ça qu'on compare Dieu. Moi, ça me fait un peu peur. C'est fort comme terme. Et dans les psaumes, on utilise le feu qui consume comme le feu qui consume dans un creuset. Le creuset, c'est une petite pièce comme ça où on met du métal précieux et puis on le fait chauffer tellement qu'il y a toutes les impuretés qui partent. Et c'est à ce feu-là qu'on compare Dieu. Il tue le péché en nous. Il nous purifie. Et il y a quelque chose qui est bon avec le feu, parce qu'il nous réchauffe, il nous éclaire, il nous fait du bien, mais en même temps, on doit se tenir à distance de lui. On a besoin d'avoir un profond respect pour lui, un feu dévorant. Et en fait, on craint plusieurs choses dans notre vie. Que ce soit peut-être notre avenir financier, peut-être la solitude, peut-être vous avez peur de la mort, peut-être la maladie, de l'avenir. Et il y a tout plein de choses, et de manière de nouveau totalement légitime, qui nous font craindre, desquelles on a peur. Et quand je dis qu'on a peur, c'est aussi qu'on obéit en fonction. Et on se dit, attends, il faut que je sois plus sécure par rapport à ça. Du coup, je vais me préparer, je vais faire des réserves. Et Dieu, dans son amour, est en même temps une puissance extraordinaire. Et la crainte qui s'est emparée des disciples ici, elle n'est pas à sous-estimer. En fait, Dieu nous met dans une saine tension. Autant il nous aime infiniment, et il a un pouvoir infini sur nous. Et cette tension, elle est un peu déstabilisante, parce qu'on se dit, ok, il a le pouvoir de vie et de mort sur moi, littéralement. Quelques versets plus tard dans les Actes, il y en a deux, Ananias et Saphira, qui expérimentent ça. Et pourtant, il m'aime tellement qu'il a donné son fils pour moi. Et tout ça, ça nous fait perdre le contrôle. On est là, ok, en fait, je suis obligé d'accepter. Enfin, personne, Dieu ne force personne, mais l'amour qu'il donne nous met dans une saine tension. Et je dis ça parce que je commence par la crainte, et après il y a les miracles qui viennent, et c'est des choses extraordinaires. Raph en a parlé la semaine dernière, c'était super bien d'aller écouter le message du miracle, enfin d'autres miracles en particulier. Et en fait, je crois qu'on a besoin en tant que chrétien de redécouvrir cette crainte. De qui est-ce qu'on parle ? De Dieu. Vraiment. Et il y a une sainte crainte à avoir, pas une crainte qui oppresse, qui nous fait sentir coupables. Tu sais, dans l'histoire d'Adam et Ève, il y a Adam et Ève mangent le fruit défendu après avoir écouté le serpent, et ensuite ils se cachent de Dieu. Et un théologien que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Bennett, qui parle du désir, qui a une vie incroyable par rapport à ça, il dit, en fait, un des plus grands péchés d'Adam et Ève, c'est même pas d'avoir mangé le fruit de s'être fait tenter, c'est d'avoir eu honte que Dieu n'allait pas les accepter. C'est de vouloir s'être retiré et d'avoir eu peur de lui. Et Dieu demande de nous un énorme respect, mais il nous aime aussi indéfiniment. Et c'est un peu déstabilisant, parce que peut-être vous entendez ça et vous êtes là, ok, mais en fait, il n'a pas vraiment de réponse à donner par rapport à la crainte. Et non, en termes de mots, je n'ai pas de réponse. Par contre, c'est une question d'attitude de cœur et qui est donnée par le Saint-Esprit. Et moi, j'aime souvent faire ça, comme disait le grand Jacques Ellul, la vraie orthodoxie se trouve pas dans des dogmes, mais dans des questions qui pointent vers la vérité. Et j'espère avoir une question dans ce sens-là. Et du coup, je vous poserai la question, comment est-ce que je perçois Dieu ? Est-ce que j'en ai peur et j'essaie de me cacher ? Ou est-ce que j'arrive à venir vers lui vraiment dans une attitude de respect ? Je laisse 30 secondes de silence juste pour réfléchir à ça. Hey, je vous encourage à prendre des notes, je vous assure ça aide, sur votre phone ou sur des feuilles de papier, ça rend super, pour se relire après et juste pour suivre, ça aide à fond. Bref, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Ok, deuxième point, le partage. En fait, c'est quand on lit le passage dans Acte 2 que j'ai dit avant, c'est écrit « tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun ». Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne parle pas directement d'argent. On parle de possession. Et que ce soit l'argent ou les possessions, c'est un peu un sujet tabou en Suisse. On n'est pas trop en parler. Les salaires, c'est écrit confidentiel dessus. Il ne faut pas qu'on en parle autour de nous. Et tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est presque devenu une religion. En mode, tu sais, t'as ta religion individuelle et t'aimes bien ne pas être trop dérangé. Souvent en Suisse, c'est ça. La religion, ça appartient à chacun, on ne va pas se déranger là-dessus. Et l'argent, des fois, il a presque cette place-là. Vraiment. Moi, je vais vous poser trois questions très rapidement. Petit sondage. Qui parmi vous s'est déjà dit qu'il ou elle aimerait avoir plus d'argent, simplement pour se faciliter la vie. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, disons 500 francs par mois. Qui aurait envie de ça ? Ouais ? Je pense la majorité des gens, si vous n'avez pas levé la main, vous êtes vraiment très très vertueuse. Ok, deuxième question. Qui parmi vous s'est déjà dit qu'il ou elle aimerait pouvoir donner plus d'argent à une cause ? Ou quelque chose qui vous porte à cœur, par exemple un artiste ou une cause humanitaire qui vous parle. Est-ce que vous êtes déjà dit ça ? Oui ? Ouais, un peu moins de personnes. C'est ça. Ça touche la troisième question. Est-ce que vous êtes déjà dit que vous êtes dans des circonstances économiques défavorables ? En gros, vous êtes dans la dèche financièrement. Et vous vous dites que s'il y avait un système mieux réglé, alors à ce moment-là, vous auriez une relation à l'argent qui serait saine. Genre, si je payais moins d'impôts, alors là, je pourrais être généreux. Ou si je gagnais plus d'argent, alors je pourrais moins travailler et plus prendre de temps pour le discipulat, tu vois. Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça ? Ouais ? Moi aussi, je vous rassure. En fait, pour moi, ça montre qu'on a une relation paradoxale à l'argent. Et on voit ça un petit peu comme une force extérieure. Genre, on espère qu'il y a une force extérieure qui va régler ces problèmes à notre place. Jacques Ellul, que j'ai rapidement cité avant, qui était un grand penseur protestant, qui parlait de plein de choses, il a écrit un livre qui s'appelle « L'homme et l'argent ». Et dedans, c'est écrit « Les jeunes bourgeois ». Ça est écrit dans les années 70, ok. Les jeunes bourgeois, c'est un peu les Suisses, ok. Les jeunes bourgeois qui sentent leur injustice, qui ont mauvaise conscience parce qu'ils ont de l'argent ou parce qu'ils en gagnent assez aisément dans une situation facile, n'osent pas se poser personnellement la question de leur argent. Là, on est un petit peu touché en tant que Suisse. Des fois, on est là, s'il y a un SDF, limite, on préfère donner de l'argent que de passer 5 minutes avec lui à discuter. Honnêtement, des fois, on est comme ça. Il continue en disant « Ils préfèrent de beaucoup s'engager dans un parti qui travaille pour la justice sociale. Ils y donnent du temps et même de l'argent et se rassurant ainsi par la perspective d'une société nouvelle à laquelle ils contribuent. C'est tellement plus simple que de se débattre seul avec la puissance de l'argent. Si simple et si rassurant. » Ça fait mal hein, d'entendre ça. En fait, ici, il utilise un terme tellement intéressant, la puissance de l'argent. Et ce terme, il ne le tire pas de nulle part, c'est Jésus qui l'utilise en premier. Dans Matthieu 6, 24, c'est écrit « Aucun homme ne peut servir deux maîtres, car toujours il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon. » Mammon, c'est plus un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Et en fait, ça vient de l'araméen, et c'est une puissance. Ce n'est pas une divinité ou quelque chose, c'est une puissance qui agit sur le cœur de l'homme. Et en fait, c'est une manière de dire que la richesse ou les possessions matérielles, elles ont autant de puissance que Dieu sur notre cœur. Dieu, il compare les deux. Jésus compare les deux. L'argent et Dieu. On peut en servir un et haïr l'autre. On ne peut pas servir les deux en même temps. Moi, je trouve ça taré, tu sais. En Suisse, on n'en parle pas beaucoup de l'argent. Et pourtant, Jésus, il en parle dans environ un quart de ses prêches. Et il dit même que la puissance de l'argent a autant de force que la puissance de Dieu sur nos cœurs. Et c'est à nous de choisir. Quel maître est-ce qu'on veut servir ? Et je crois, en fait, ça nous touche toutes et tous. Qu'on soit pauvre ou riche, franchement, ça ne change pas grand-chose. De manière générale, en particulier en Suisse, il y a quelque chose de tellement sécurisant dans l'argent. Mais ce n'est pas juste ce que tu as sur ton compte en banque. Peut-être c'est juste des choses qui nous appartiennent. Peut-être c'est une voiture, une maison, ou même des droits. Et ça nous sécurise beaucoup. Et on sent mieux. En fait, Dostoïevski, un auteur extraordinaire russe du XIXe siècle, il dit « L'argent est la liberté monnayée. » Ok. Exemple. Avec Manon, on s'est mariés il y a bientôt 3 ans. Yes, merci. Tout petit peu d'enthousiasme de Cindy. Et quand on s'est mariés, on était les deux étudiants. Donc, autant vous dire que c'était un petit peu short. Et du coup, on s'est mariés, on était, OK, on n'a pas envie que l'argent dicte notre situation maritale, du coup, on va se marier. Et puis, on s'est mariés, on a fait la fête, on a refait la fête, Covid, on a déplacé des trucs, bref. Et puis, on est parti en turbo voyage de noces, comme ça, au Tessin. Et à ce moment-là, j'avais... je commençais mon master, j'avais postulé pour une bourse. Il me disait, ouais, le montant minimum, c'est 1000 francs. Et du coup, je disais, ah bah cool, tu vois, ça peut payer un loyer et tout. Et je fais une sieste et je me réveille, je reçois un mail qui me dit, ah bah, on a pensé à vous, on vous a vu votre situation, on vous donne 16 000 francs. Et c'était 16 fois plus que le minimum. Et je te promets qu'à ce moment-là, j'ai pété un câble. J'étais là, wow, incroyable. Direct, je me suis réveillé, j'ai dit à Manon, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, incroyable et tout. J'ai été à la COP, j'ai acheté la bouteille de whisky la plus chère qu'il y avait. J'ai dit, yes, incroyable. Tu sais, cette sensation où tu es dans la dèche, mais où d'un coup, tu reçois plein d'argent, puis tu es là, yes. Enfin, je me sens libre. Enfin, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et cette sensation, alors franchement, après on s'est un peu calmé, on a calculé nos dépenses et tout ça, on était ok, bon, ça tient. 5-6 mois après, on ne sait toujours pas comment on va continuer. On a toujours réussi à s'en sortir. Mais juste la sensation que créer l'argent, c'est extraordinaire, ça crée des émotions. Mais en même temps, ça montre aussi qu'on met souvent notre sécurité là-dedans. et qu'on a envie de pouvoir avancer, mais des fois sans... On a envie de pouvoir avancer, mais des fois sans, ça coûte trop. Et quand je dis argent, ce n'est pas juste ce que tu as sur ton compte, c'est peut-être ton énergie, peut-être tout ce qui est plus ou moins mesurable, ou tes possessions. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? En fait, les disciples ont commencé à partager. Après avoir reçu le Saint-Esprit, rappelez-vous, ils sont chacun dans une maison, ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. Ils craignent Dieu, il y a des miracles qui se passent, et c'est écrit qu'ils partagent. C'était là-bas. Ouais, enfin, moi aussi, je fais la cuisine des fois, j'invite des gens, je partage ce que j'ai acheté. Là, c'est plus profond. C'est de se dire que maman, l'idée de possession n'a plus de pouvoir sur eux. C'est de se dire, en fait, je donne aux autres en fonction de leurs besoins. Ils mettent tout en commun. Il ne faut pas voir là-dedans l'illusion d'un système politique, ok ? C'est juste une manière de dire que leur cœur a été changé par le Saint-Esprit. Ils partageaient. Tim Keller, un grand théologien et pasteur de New York, le résume en trois choses. C'était savoir quel lien est-ce qu'on a avec l'argent, est-ce que c'est sain ou pas. Il disait, il y a trois manières de le savoir. Premièrement, si tu regardes une personne pauvre et que tu arrives à ne pas la maîtriser, la mépriser et éprouver de la compassion pour elle. Première chose. La deuxième, c'est en regardant une personne riche et que tu arrives à ne pas l'envier ni la mépriser aussi. Des fois, c'est facile de mépriser les riches. Et la troisième chose, la plus importante, c'est que tu arrives à être naturellement généreux sans rien attendre en retour. Pas mépriser les pauvres, pas envier les riches, et donner de manière généreuse. Ici, c'est quelque chose de spirituel, c'est vraiment une pratique profonde, qui est donnée par le Saint-Esprit, et qui se manifeste en communauté. Et moi, je vous poserai peut-être cette question simplement ce soir, c'est tout bête. Dans quel domaine est-ce que je pourrais être plus généreux ? Justement, pas juste de la manière monétaire, mais peut-être aussi avec mon temps, mon énergie. Savoir qu'est-ce qui me retient. Et faites-le avec une certaine intelligence émotionnelle aussi. Si vous êtes endetté, commencez pas à payer des voitures à vos voisins. Mais je crois que c'est plus une question de cœur, de « ok, qu'est-ce que je suis d'accord de lâcher comme sécurité pour pouvoir donner plus ?» Ok, troisième point, la joie. La suite dans les versets, c'est écrit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. La joie, je trouve ça ouf. Ça vient avec l'esprit. Dans Galates 5, 22, Paul parle des fruits de l'esprit. C'est écrit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La joie arrive en deuxième, juste après l'amour. C'est ouf. Tu sais, on parle du Saint-Esprit qui vient, qui leur donne la crainte, le profond respect de Dieu, la générosité. Et si tu prends juste ces deux choses ensemble, ça fait un peu le bon chrétien protestant, tu vois. Le gars qui vit sobrement, qui ne dépense pas trop, qui partage chrétiennement. Et c'est bien. Et tout ça, je pense, c'est vraiment des bonnes choses. Mais Tout ça, ça va avec la joie. De Philippiens 4:4, c'est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. En fait, c'est même un ordre d'être joyeux. Ça fait partie de la nature de l'Esprit de Dieu. Franchement, c'est très simple. Si vous essayez d'être généreux et que vous n'avez pas la joie, arrêtez. Arrêtez. Si c'est la culpabilité qui vous motive, franchement, non. Mais faites-le avec joie. Et là, c'est le Saint-Esprit qui fonctionne dans ton cœur. En fait, aujourd'hui, dans notre culture, je réfléchissais un peu à la joie, puis je disais, ah, mais quel rapport est-ce qu'on a vraiment avec la joie? Et des fois, j'ai l'impression qu'on a tendance à confondre plaisir et joie. En fait, on est dans une société qu'on pourrait qualifier d'hédoniste. Donc, ça veut dire que c'est un mot compliqué, un peu pour dire, c'est la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. On va essayer d'expérimenter un maximum de choses qui nous font ressentir du plaisir, ceci jusqu'à la fin de notre vie, et essayer peut-être de se dire, ok, j'ai été heureux. Mais est-ce que c'est vraiment la joie? Franchement, je pense qu'il n'y a rien de mal à se faire plaisir. Lundi soir, j'étais sur mon rooftop avec un pote. On était là avec un top, ça veut rien dire. Petit verre de vin blanc, petit saucisson, petit fromage, bon vaudois, tu vois. C'était trop bien et ça faisait trop plaisir d'être comme ça. Mais est-ce que c'est la joie? Je ne suis pas sûr. En fait, dans le plaisir, il y a quelque chose de paradoxal. Chaque fois qu'on y goûte, il s'efface après. On a envie de plus. Ça, c'est comme s'il n'y avait jamais assez. En fait, on fait constamment face à une frustration. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que des fois, quand vous êtes stressé ou un peu triste, vous êtes là, ok, j'ai trop envie de comfort food. J'ai trop envie de me faire un McDo. Même si je sais que ce n'est pas bien, pour plein de raisons que je n'ai pas besoin d'expliquer, mais qu'est-ce que ça me fait du bien? Et tu sais, genre, tu prends ça, tu kiffes des 30 secondes où tu manges ton burger, parce que ça ne dure pas beaucoup plus longtemps. Et ensuite, tu es là, pourquoi j'ai fait ça? Non seulement parce que la digestion s'avère difficile, mais finalement, après, tu ne te sens pas franchement beaucoup mieux. Tu sais, c'est un peu, j'espère que le plaisir va me combler. Et là, je parle de nourriture, mais en fait, c'est tout ce que le corps dit, tout ce qu'il a envie de faire. Et franchement, je crois, Dieu a permis le plaisir dans plein de situations. Jésus, son premier miracle, c'est de transformer de l'eau en vin pour que d'autres personnes puissent continuer à faire la fête. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est un miracle qui fait plaisir, tu vois. Ça, c'est mon Jésus, ça. Mais et du coup, ça je ne l'avais pas préparé. Donc, Jésus vient avec nous et dans la joie. Et en même temps, notre cœur, il a envie de plus de fusion, d'être avec quelque chose de plus profond. En fait, C.S. Lewis, qui était un grand penseur chrétien, il a écrit son autobiographie qui s'appelle « Surpris par la joie ». Et il est très franc. Il dit « La joie n'est pas un substitut au sexe, mais le sexe est très souvent un substitut à la joie. Je me demande parfois si tous les plaisirs ne sont pas des substituts de la joie. » C'est ouf, hein? Ici, C.S. Lewis, il se pose la question de savoir si on ne cherche pas à combler quelque chose. Et des fois, l'expression le plus fort, c'est la relation sexuelle. Et où on a tellement envie de faire fusion avec quelqu'un d'autre. Et je vous dis, c'est super. Si vous êtes marié, continuez à faire l'amour, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Mais en fait, on n'a pas besoin de vivre avec. Et disons, le désir de fusion sexuelle, c'est plus cette volonté de faire fusion avec quelqu'un d'autre, avec un autre être, avec une autre âme. David Bennett, dont je parlais avant, il dit que c'est l'expression la plus profonde de recevoir un amour. C'est la passion qui, des fois, s'exprime à travers la sexualité. On a besoin de combler quelque chose en nous. Ce que je veux dire par là, je ne suis pas du tout en train de célébrer une foi puritaine. Il ne s'agit pas de se priver de sexe ou d'alcool, ou d'autres choses qui nous feraient plaisir. Mais il s'agit d'honnêtement se poser la question, ok, est-ce que ma joie, ou ce que je crois être la joie, est-ce que j'essaie de la combler avec certains plaisirs ? En fait, Dieu nous donne sa joie à travers son Saint-Esprit. Et peut-être vous vous posez la question des fois, ok, se dire que c'est juste quand je suis dans la louange que je me sens bien, à ce moment-là, c'est la joie. Peut-être, très probablement même, et c'est trop bien. Mais moi, je donnerais peut-être rapidement 5 éléments qui vous font peut-être situer la joie comme venant de Dieu. En fait, premièrement, donc Paul, en fait, il utilise la joie souvent dans ses lettres et il utilise 5 éléments pour la définir. C'est une émotion. Ça fait du bien. C'est pas une pensée. On n'a aucun contrôle dessus. On la reçoit. C'est une émotion. Et c'est dans l'âme. C'est plus profond. C'est pas juste dans notre corps. C'est pas juste un shot de dopamine ou un shot d'endorphine. C'est au plus profond de notre être. Ça vient du Saint-Esprit. Comme ça a été dit dans Galates 5, 22, c'est un fruit de l'Esprit. Ça glorifie Jésus. Le Saint-Esprit ne fait pas ça magiquement. Mais en fait, c'est une beauté, une joie qui glorifie littéralement Jésus. C'est beau, les personnes joyeuses, vous ne trouvez pas? Et on voit cette joie partout dans la création de Dieu, dans son verbe, dans sa parole, dans la nature, dans les chrétiens autour de nous. Et en fait, la joie, finalement, elle vient de l'esprit. Et pour nous, en tant qu'êtres humains, il s'agit de faire la chose la plus difficile du monde, c'est de lâcher le contrôle et de laisser la joie venir nous chercher. C'est une expression de qui est Dieu. Je l'ai dit avant, si vous essayez d'être généreux, si vous craignez Dieu, mais que vous éprouvez pas de joie, ben, votre foi, je suis désolé, mais il faut qu'elle grandisse. Mais c'est pour une bonne chose, la joie, c'est vraiment une bonne chose. Et peut-être que pour toi, c'est difficile d'entendre ça ce soir. Tu te dis, mais attends, tu ne connais pas ma situation. Je n'arrive pas à vivre la joie. Eh bien, je te dirais, ben, déjà, est-ce qu'on peut se faire un hug après le culte? Et puis, tu sais, vraiment, le Saint-Esprit, il est venu pour nous. Comme une personne qui nous aime, qui nous fait créer une relation avec Dieu. Et des fois, je crois, on doit arrêter avec cette idée que si on est avec Dieu, on n'a plus de souffrance. Tu sais, ça vient un petit peu de cette culture hédoniste, qu'il n'y a que du plaisir, il n'y a pas de souffrance. Non, si tu regardes l'histoire des chrétiens, purée, ce n'était pas toujours facile, hein. Surtout pour les actes. Et pourtant, des fois, c'est une idée très répandue. J'ai un ami qui discutait avec un autre ami qui argumentait un peu là-dessus, puis l'autre ami lui disait, mais en fait, je crois en tant que chrétien, on ne doit pas vivre la souffrance. Mon pote lui dit, mais t'es sûr de ça? Je dis, ouais, non. À aucun moment, Dieu va permettre la souffrance. Du coup, mon ami, qui a un franc caractère, il l'a giflé comme ça. Il a dit, là, tu sens quelque chose, là? Des fois, on reçoit des gifles de la vie. Et pourtant, Dieu nous invite à vivre dans la joie. Et son esprit nous apporte la joie. Alors ce soir, je vous poserai cette question. Est-ce que dans ma foi, j'arrive réellement à vivre la joie comme un don de l'esprit? Avec ça, je vous demanderai si oui. alors gardez-le pas pour vous, ça ne vaut pas la peine. Et du coup, comment est-ce que vous pourriez le partager plus loin? Et sinon, quelle situation ou vision de Dieu empêche de vivre ça? Il n'y a aucune honte, vraiment, à se dire, ok, je suis chrétien, mais en fait, je n'arrive pas vraiment à être joyeux dans ma foi, dans ma marche de disciple. Posez-vous la question. Au cas où, il y aura aussi un temps de prière auprès de quelques personnes au fond, et je vous encourage à aller discuter là-bas par rapport à ce sujet. Ok, je vous laisse 30 secondes de nouveau avec ces questions, et ensuite je vais aller vers la conclusion. Ok. J'ai appelé ce message composé un monde en commun. Je parlais de crainte, de partage et d'être dans la joie. Et au dernier verset, 47, c'est écrit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » C'est ouf, hein ? Ils sont en communauté. Ils vivent des choses extraordinaires entre eux. Non seulement il y a des malades qui sont guéris, mais en plus ils partagent et ils sont dans la joie. Et ça attire les gens autour. L'Église, elle grandit chaque jour. C'est écrit, chaque jour des nouveaux fidèles viennent. Et ça, c'est un vrai changement pour la culture de l'époque. Ils n'avaient pas de programme politique. Ils n'étaient pas là, on va renverser César. Et puis ensuite, Jésus pourra avoir sa place. En fait, ils vivaient en communauté ces notions de crainte, de partage et de joie. Et ça a littéralement changé le monde. Rapide exemple par rapport à ça, c'est aux États-Unis, au 19e siècle, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui des communes, des communautés qui sont implantées. Et du coup, dernièrement, il y a des scientifiques qui ont étudié ce que ces communautés ont fait et comment elles ont évolué et grandi. Et à ce moment-là, ils ont catégorisé deux types de communautés. Il y avait les communautés chrétiennes qui étaient motivées par la Bible, par les enseignements de Jésus. Il y avait des communautés qu'on appelle aujourd'hui socialistes. Socialistes, à ce moment-là, c'est un peu un autre contexte. C'est le socialisme utopique de Schiller ou le phalanstère de certains Français. C'est un petit peu technique, là. Mais en gros, c'est des idéologies qui permettent de rassembler les gens. Et du coup, ils ont catégorisé ça comme ça. Ils ont regardé, les scientifiques, OK, il y a ces deux types de communes. Ils ont regardé, au bout de 20 ans, lesquelles avaient perduré. Et au bout de 20 ans, il y a 6% des communes socialistes qui ont duré, et 36% des communes chrétiennes. Elles n'ont de loin pas toutes réussi. Deux tiers ont réussi, et les autres, elles sont toujours là, mais on ne sait pas vraiment dans quel état. Peut-être il y en a qui sont renfermées sur elles-mêmes, mais elles sont toujours là au bout de 20 ans. Enfin, c'est juste une idée pour dire qu'il ne faut pas être naïf. Et ils ont réussi à créer des communautés qui ont fait la différence. Certains d'entre eux, aujourd'hui, on les appelle les Quakers. Et ils ont permis l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Énorme. Et ça a commencé dans des communautés. Ils ont bouleversé le monde en commençant comme des communautés. Mais je crois, si on est motivé par l'amour, par vivre ensemble, ça fait vraiment la différence. Il y a un théologien un peu provocateur qui disait, il s'appelle Stanley Auerwas. Il disait que des fois, en tant que chrétien, on a des réponses à tous les problèmes du monde. Mais en fait, la tâche première, c'est l'Église. C'est d'être l'Église. commencez par être l'Église. Et après, on changera le monde. En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que notre job, c'est d'être motivé par l'amour. Alors que le monde est plus motivé par la compétition, la comparaison ou la performance par rapport aux autres. En vrai, c'est ça qui transforme le monde. Ce n'est pas un programme politique, moral ou éthique. C'est de s'aimer les uns les autres en communauté. Et en fait, si j'ai mis cette musique au début, c'est juste pour se rappeler... Enfin, je crois vraiment que cette musique, pour moi, elle a plein de métaphores en lien avec, avec l'Église. En fait, c'est juste de se dire que l'Église, déjà, c'est beau. Tu sais, des fois, on est là en tant qu'Église, on espère être utile à la société. Et oui, à fond. Mais je crois que c'est aussi beau. Des personnes joyeuses, ensemble, qui vivent, qui partagent, qui ont la crainte de Dieu. Et en fait, c'est comme si, en fait, dans cette musique, vous n'entendez pas le compositeur. Mais chacun joue sa partition. Si vous prenez chaque instrument individuellement, ça ne donne pas grand-chose. Mais par contre, si vous les prenez et que vous les mettez tous ensemble, là, c'est incroyable. Et je crois que, au même titre, en tant qu'Église, on peut construire notre communauté en jouant chacun notre rôle. Et ça devient beau, et ça change le monde. J'invite l'équipe Louange à monter sur scène, et puis je vais prier juste pour finir ce temps. Merci Père pour ton esprit qui vient en nous, sur nous, pour ta flamme. Seigneur, je te prie que nos cœurs soient renouvelés par ton esprit, que les fruits de l'esprit de Galates 5, 22, l'amour, la joie, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, puissent encore plus faire partie de nos vies, qu'on puisse, en tant qu'individu et en tant que communauté, s'aimer plus pour aimer le monde. Seigneur, tu connais nos travers, tu connais nos moments où on est les plus faibles, mais tu viens aussi nous chercher là où on a le plus besoin de toi. Seigneur, je te prie que juste ton esprit puisse venir nous visiter ce soir et juste les prochains jours à venir. Amen.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.